Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Mon premier invité cette saison a encore connu un gros été. Parce que bien que ses années comme grand joueur du Canadien de Montréal, un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue, ou dire même de Scottie Bowman, ancien directeur général du Canadien, le dernier à avoir remporté la Coupe Stanley évidemment au Canada et à Montréal. On a fait une émission spéciale au printemps, sa compagnie avec Pierre Javet également. Mobilisateur à temps plein pour la simple et bonne raison que Serge Chavard continue de s'impliquer année après année dans des événements qui permettent de recueillir des sommes colossales. Qui dit mieux? Encore cette année, deux événements qu'il a parrainés. J'ai eu l'occasion de participer à l'un d'entre eux, au Pine Grove, qui a permis de recueillir pour la Fondation d'Hôpital Charlemagne et la Fondation Serge Lemieux là, au-delà du million de dollars. Et un autre événement au Mirage, un petit peu plus récemment, où on a eu une récolte record aux environs de 1,5 million de dollars pour les athlètes de l'Université de Sherbrooke. Ceci dit, c'est pour une triste nouvelle que je l'accueille ce soir, même si je souligne les bons coups de l'été. Le décès de quelqu'un qu'il a bien connu, Yvon Penneau, le journaliste qui nous a quitté en fin de semaine. Et Serge l'a connu, évidemment, Serge Chavard l'a connu comme joueur. Donc lui, il voyait arriver dans le vestiaire, il voyait arriver dans l'autobus, aux pratiques, sur la route, puis après ça, comme DG. Alors, il a bien connu Yvon Penneau nécessairement. Serge Chavard est avec nous. Bien le bonsoir, Serge.
Hey, bonsoir Mario, ça va bien?
Ça va très bien toi-même, bravo. Bravo pour l'été encore une fois, c'est exceptionnel.
Ben, merci beaucoup. Je suis content d'être le premier invité de ta saison.
Ben, c'est un honneur pour moi, Serge. Tu sais le respect que je te voue depuis ma foi, je veux pas te vieillir, depuis ma tendre enfance. Et Serge, dis-moi, comment tu réagis? Je sais pas si tu connaissais l'état de santé d'Yvon Penneau.
Ben non, écoute... Moi, ma carrière a débuté peut-être avec Canadien un an ou deux avant qu'Yvon arrive là. Mais disons que nos carrières ont été pas mal parallèles. Puis cet été, probablement à cause des vacances, ça a passé inaperçu. Je pense qu'Yvon voulait pas que personne le sache. Puis vu que c'était les vacances, bon, on s'est pas aperçu qu'il était pas en onde. Et écoute, je le savais pas. Je l'ai su le matin, je l'ai entendu le matin. J'ai parlé à son fils hier, puis son fils m'a dit qu'il ne voulait pas qu'il en parle à personne lorsqu'il a commencé à décliner beaucoup là, dans les derniers jours. Écoute, c'est arrivé, tout le monde est surpris. C'est un cancer fulgurant. Il est rentré là, puis il était bien. Je me rappelle, on l'a vu durant la série éliminatoire à la télévision. Il était très bien, puis il rentrait à l'hôpital une journée, puis on lui a dit qu'il te reste quelques mois à vivre, puis... Il a fait seulement un mois. Alors, c'est triste, mais écoute, je regarde nos carrières, puis c'était une époque, tu sais, c'était à l'époque, des gars comme Jacques Lemaire, et Carole Vanney, Rogatien Vachon, c'était tous des nouveaux qui arrivaient avec le Canadien dans la fin des années 60, 68, 69. Puis eux autres, ben il y a un paquet de nouveaux journalistes qui arrivaient en même temps. Là. On avait appelé ça le Blueberry Power, là, parce qu'il y avait,
oui.
Il y avait trois gars du Lac-Saint-Jean qui contrôlaient un petit peu l'information hockey. Là. Un au Montréal le matin, Yvon Penneau, puis Bertrand Raymond au Journal de Montréal, puis Régent Tremblay à la presse. Alors, on avait tout ce monde-là là, qui suivait le Canadien. Et je vais te conter une petite anecdote un soir.
Vas-y.
Les gars avaient commencé à pousser réellement pour que Mario joue d'une façon régulière à ses débuts dans la Ligue nationale. Puis ayant trois gars du Lac-Saint-Jean qui couvraient le Canadien.
Ben oui.
On était à Vancouver un soir, tu sais, puis personne ne voit ça. C'était seulement le match, c'était seulement à la radio. Je pense que Mario avait joué deux fois dans la soirée. Puis eux avaient donné à Mario la première étoile du match.
Ben voyons donc, c'est le rapport de force entre Scotty et les médias. Scotty, est-ce qu'il jouait un petit peu avec ça, oui?
Pour ça, c'est un peu suite à ça là, qu'on a commencé à les appeler le Blueberry Power. mais Yvon, écoute, je l'ai connu de ses débuts. Je l'ai connu lorsqu'il a quitté, puis il est devenu gérant du collège français. Moi, j'ai parti à l'école collégiale 3A. Au début, c'était le collégial. Ils ont rejoint la ligue junior majeure. Après ça, je l'ai aidé à le faire nommer sur le comité de sélection. Parce que ça prenait un journaliste francophone, et j'ai poussé pour lui, puis il a été accepté comme votant, là, membre du comité de sélection de la Ligue nationale. Je l'ai côtoyé là aussi. Comme joueur, comme gérant, mais c'est un gars qui avait beaucoup de contacts, puis c'est un gars qui a gagné la confiance du monde. Parce que tu sais, c'est pas juste avoir un scoop puis sortir une grande nouvelle comme journaliste. Faut que tu gagnes la confiance.
Tu peux en avoir un puis plus en avoir de ta carrière si tu brûles la confiance des gens, tu sais.
Alors, lui, il a eu beaucoup de contacts, puis même au temps de la renommée, ce qui est arrivé là comme membre, il y avait beaucoup de monde là-dedans, des journalistes, des plus grands journalistes au Canada, des directeurs gérants, des instructeurs. Alors, il côtoyait tout ce monde-là, puis il a gagné la confiance de tout ce monde-là. C'est un gars qui, écoute, à 77 ans, il a la même offre que moi, là. Puis il était encore avec un enthousiasme incroyable lorsque tu l'écoutais durant les matchs.
Oui, absolument. Il faisait pas son âge. Tu sais, on dit ça souvent, ses photos, là. Mais lui, à l'écouter, Serge, t'as raison. Il faisait pas pantoute son âge. Beaucoup d'enthousiasme. Il avait encore un bon ton, une bonne voix. Rien qu'il laissait deviner ce qui l'attendait, là.
Non. Puis, c'est la plupart du monde a rendu à cet âge-là. Ben, il décide de prendre la retraite. Mais pas lui. Il était encore, là, fasciné. Puis, il aimait encore beaucoup son métier, là.
Ouais.
Fait que c'est des choses qui guettent tout le monde là, du jour au lendemain. Hein. Il y en a beaucoup qui tombent autour de nous autres dernièrement. Là,
ça t'ébranle-tu personnellement? Roger, t'es avec nous, j'en ai parlé, c'était après enregistré parce qu'il fait Jay ce soir, mais tu sais, t'es tout à l'heure en parfaite santé, puis je touche du bois en disant ça, Serge, hein, parce qu'avec ce qui est arrivé, ils vont, on sait jamais, mais c'est comme veux pas, ça doit pas être facile. Moi, je suis juste dans cinquantaine, tu sais, puis pas loin de 60 dans quelques années, puis tu sais, il y a du monde qui malheureusement décède dans cinquantaine. Il y en a qui partent trop jeunes.
Ben, écoute, on n'est pas éternel, là, puis tu regardes la moyenne d'âge de vie, puis on est rendu dans la zone rouge, là, nous autres, là, à 77 ans, là, on est rendu dans la red zone, comme on dit au football américain, mais écoute, moi je suis moi je suis très conscient de ça. On ne peut pas savoir ce que le temps nous réserve, là. Mais moi, j'ai pris des grosses décisions il y a 4-5 ans. J'ai perdu beaucoup de poids, puis j'ai commencé à m'entraîner d'une façon régulière. Et on sait qu'il ne restera pas énormément de temps à vivre, mais le temps qui me reste, je veux être en santé.
Oui, ben c'est sûr, ça, il n'y a rien de plus précieux. Tu as parlé de contrôle, que le Blueberry Power des journalistes de l'époque, donc tu as contrôlé un petit peu le contenu hockey de l'époque. Mais moi, je vais te dire, Serge, je suis un peu jaloux de ne pas avoir vécu à cette époque-là. J'ai eu une belle époque, mais j'étais à cheval sur la ligne, en ce sens que je suis dans la nouvelle époque aussi, où c'est très hermétique au niveau des équipes.
Ben, regarde Mario, essaie d'avoir une entrevue avec un joueur régulier du Canadien ou une vedette du Canadien.
Ben oui.
Tu me diras combien de détours qu'il faut faire avant d'arriver à ça.
Crainte-moi pas.
Des gars comme Yvon Penneau puis ouais. Bertrand Raymond arrivait sur l'avion ou sur l'autobus, puis Guy Lafleur était là, puis il allait s'asseoir à côté de lui. Là. C'était aussi simple que ça. Ces gars-là faisaient partie de l'équipe, dans le fond. Ils faisaient partie de l'entourage. C'est une nouvelle génération qui est arrivée un petit peu, puis Régent Tremblay, il était un petit peu spécial comparé à eux, parce que lui, il déviait de la ligne de temps en temps, puis il aimait ça sortir un scoop, puis il aimait ça peut-être qu'il était plus critiqué que les autres. Là.
C'était quoi la ligne quand tu dis qu'il déviait de la ligne, Serge? C'était quoi la ligne? Qui a tracé la ligne?
Ben, quand si tu veux venir t'asseoir aux côtés de Guy Lafleur, puis si tu veux venir t'asseoir aux côtés de Steve Schott dans l'autobus puis dans l'avion, ben il va falloir que tu les respectes, puis il va falloir que tu respectes leur vie privée. Et tu sortiras. Mais moi, j'ai toujours le deal que j'ai eu avec tous les journalistes. Vous pouvez parler de n'importe quoi au niveau hockey. Qu'est-ce qui se passe sur la glace? Qu'est-ce qui se passe dans l'entraînement? Mais venez jamais toucher à ma vie privée. Puis les gars ont toujours respecté ça.
OK.
Alors, il y a des choses qui doivent être respectées. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Tu sais, le off the record, là. Off the record avec les joueurs, ça existait à l'époque. Là, il arrivait quelque chose, le gars, tu disais au gars, ben c'est off the record, j'aimerais pas ça que tu parles de ça. Mais c'était à respecter. Puis quand je parle avec des gars comme Marc Defoy aujourd'hui, des gars qui sont dans le milieu comme toi, là, les gars me disent, oublie ça, là, le off the record, c'est fini, ça.
Mais on les voit plus, Serge. On les voit plus, les gars. Je veux dire, à moins de d'être dans le même tournoi de golf, d'être par hasard sur le même quatuor ou d'avoir un moment d'échange. Ou, tu sais, je me suis ramassé côte à côte avec Piqué Subban dans un endroit pour manger. Mais tu sais, c'est quasiment du hasard, là. Tu sais, c'est pas le Canadien qui te l'a mis sur un plateau, ça, c'est sûr, là.
Ben, t'as raison des envier pour cette époque-là, parce que pour moi, c'était une époque, là, extraordinaire. Tu parles des années 70, des grandes vedettes qui ont passé à Montréal, 6 coupes Stanley durant les années 70, c'est l'avenue de Ken Dryden qui est arrivé de nowhere, 6 coupes Stanley en 8 ans, Ken Dryden, c'est assez extraordinaire ce qu'on a vécu, ce que tout le monde autour de nous a vécu. Quand tu regardes les personnes d'un certain âge, ils disent tout là, comment ça se passait à l'époque. On n'allait pas à l'école la journée de la parade de la Coupe Stanley. Et des commentaires, j'en ai régulièrement de ces belles années-là. Aujourd'hui, ben ça fait longtemps. Là.
C'est une autre réalité. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'il faut vivre dans le présent, mais ça ne nous empêche pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'envier un petit peu cet aspect-là de la réalité d'antan. On parle de contrôle de l'information. Je te demande, je sors du contexte, mais tu sais, on parle des journalistes d'époque. Tu es devenu DG par la suite après avoir côtoyé comme joueur. Puis ce à quoi tu faisais allusion, je sais pas si c'est ça qui était à l'origine du fait que Régent avait été, et les journalistes sortis de l'avion, là, ça avait été très, très médiatisé. Puis je pense que Régent est revenu là-dessus à plusieurs reprises au fil des ans, comme identifiant ça comme le point qui avait fait tourner le fait que maintenant, c'était devenu hermétique. Mais tu sais, puis là, je sors de cette situation-là. Tu sais, comme exemple, pas capable de parler. Guy Boucher, collaborateur sur nos ondes, il signe à Toronto comme adjoint. Les Leafs ne le laisseront pas parler. Toi, tu laisserais, tu sais, tu serais-tu très contrôlant de l'information dans la réalité d'aujourd'hui? T'as pas tout ça? Parce qu'ils veulent jamais gérer une boulette ou une grosse manchette, tu sais.
Je suis pas là. Moi, j'étais pas là quand ça a commencé à dégringoler. Là, je pense que c'est à l'époque de Bob Gainey qu'on a décidé que les journalistes voyageaient plus.
Oui, t'as raison. Tout avait. Ouais, ouais, ouais.
Je pense que c'était.
Oui, oui, t'as raison, Serge. J'ai mélangé. Deux, t'avais juste sorti Régent.
Ouais, mais à l'époque, moi, j'y parle, j'en veux pas. Mais à cette époque-là, il avait sorti une grosse article. On était en finale de la Coupe Stanley. Sur Claude Lemieux.
OK.
Puis Claude Lemieux, puis Pat Byrne. Puis à un moment donné, c'est curieux parce qu'il avait sorti un article disant que Pat Byrne était raciste. Aujourd'hui, après ça, il est devenu grand ami avec Pat Byrne. Il a fait de la moto avec Pat Byrne. Mais moi, je voyais ça plus comme. J'étais gérant général de l'équipe, puis j'avais une peur noire. Il dit ça va nous faire perdre en finale de la Coupe Stanley. Tu sais, tu veux pas avoir quelque chose qui va te déranger. Qui va te déranger. Puis Régent avait sorti cet article-là durant la finale de la Coupe Stanley. J'avais beaucoup de misère à accepter ça. Mais il y avait des joueurs. Les gars étaient tellement fâchés. J'avais peur qu'il y ait une bataille. Et là, moi, j'ai averti Michel Lapointe, le dit lui que je veux pas le voir sur l'avion pour le retour de Calgary. C'est ça qui s'est passé. Puis par la suite, après, il est revenu sur l'avion. Là. Je ne l'ai pas banni à vie. Là. Mm-hmm. Je voulais pas que ça tourne mal. Puis,
tu voulais pas échapper ta coupe. Tu voulais pas échapper notre coupe.
Tu étais en finale de la Coupe Stanley. Puis tu veux pas qu'il arrive rien qui va te déranger, qui va déranger ta concentration. Puis les gens arrivent avec un article comme ça en pleine finale de la Coupe Stanley. Là. Écoute, c'était pas plaisant. Puis c'est la raison qu'on l'avait tassé ce fois-là.
Ouais. Et écoute, c'est une autre époque aujourd'hui, mais là le contrôle là, c'est un autre monde. Tu sais, il y a eu la bulle pendant la, je le disais souvent là, pendant la COVID, mais tu sais, il y a une bulle permanente maintenant, COVID ou pas. C'est la nouvelle réalité du sport. Qu'est-ce que tu veux?
Mais les autres sacrements, écoute, les gars rentraient dans la chambre là comme si rien n'était. Là.
Oui.
On laissait le vestiaire fermé peut-être 5 minutes après le match. Au bout de 5 minutes, le Claude Mouton allait puis il ouvrait la porte puis il disait « Rentrez les boys ». Puis les défenseurs, nous autres, on était tous sur le même bord, ouais, là, quand tu rentrais dans la chambre. Puis nous autres, on avait une chance qu'on perdait pas souvent parce que lorsqu'on perdait, les journalistes, ils venaient voir les défenseurs. Alors, c'est les défenseurs qui devaient expliquer la défaite.
Okay.
Lorsqu'on gagnait, ben c'était très facile. Les gars allaient tous voir ceux qui avaient marqué les buts. Et alors, ça, c'était le running gag à l'époque. Là.
Les as-tu contrôlés comme DG? Là? Tu contrôlais-tu l'information? Y a-tu bien des histoires que tu as réussi à comme couvrir pour ne pas déranger ton équipe?
Du tout. J'ai fait des choses pour ne pas avoir me faire critiquer puis me faire dire que j'avais un parti pris, parce que des fois t'as des amis hein dans l'information, puis
ben oui, choisis à qui tu vas filer une info des fois aussi.
J'avais du monde que j'étais plus proche que d'autres là, mais je voulais pas donner un scoop à quelqu'un. Je voulais jamais me faire alors s'il arrivait quelque chose puis je savais qu'il y avait un scoop, je savais que ça sortirait le lendemain matin, je faisais un communiqué à 4h 5h de l'après-midi pour que tout le monde ait la même information. Puis des fois, je m'ai pas nommé. Jacques Beauchamp, quand j'ai été nommé directeur général du Canadien, il a appelé chez nous, puis il a appelé mon épouse, puis mon épouse a dit parti jouer au golf, puis il l'a jamais su, puis là, il m'a traité de tous les noms, mais tu sais, j'étais plus proche de Beauchamp que les autres, mais j'ai pas donné le scoop. J'ai pas donné ce scoop-là. Moi, je voulais pas que personne l'ait vu. J'aimais ça qu'une information, ça sorte, tout le monde l'ait en même temps.
Pas de favoritisme. Ben, c'est tout à ton honneur, mon cher Serge. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'amorcer la nouvelle saison, puis de rendre hommage à la mémoire d'Yvon et sa famille. Et puis, ben, je te souhaite un bon automne. Il va y avoir du soleil en masse, semble-t-il, dans les prochains jours, prochaines semaines.
Ben oui, ben, écoute, les garçons sont beaux, là. On
tu peux être sûr. J'ai jamais vu.
Je te souhaite une belle saison.
Ben, merci, Serge. J'ai jamais vu le blé d'Inde aussi haut d'un champ. Je sais pas dans ton coin, là, mais m'a dire, je pense que ça nous dépasse en masse, Serge.
Ah oui, ben, en tout cas, les garçons sont beaux. Les garçons sont beaux. Bon automne, bon programme, parce que ça va durer longtemps, hein, jusqu'au mois de juin. Alors, OK?
Absolument. Ben, écoute, la Ligue, le club, ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, je sais pas. Moi, je serais porté à croire, je pense qu'on a une meilleure organisation que dans le passé. Je serais porté à croire qu'on devrait être un peu meilleur cette année parce que des gars comme Caulfield, qui a été blessé, qui a été opéré, on l'a perdu une demi-saison l'an passé. C'est un gars qui s'enlignait pour qu'on marque 50 buts. Si on a un marqueur de 50 buts cette année, ben ou un deuxième qui est pas loin, ben je pense que ça, on va avoir une équipe différente.
Ben moi je pense que ils sont dans la meilleure position ou dans une position là qui a pas été si positive depuis bien des années. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Encore une fois, merci Serge Chavard qui était avec nous. Merci Serge.
Merci Mario.
Au revoir.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
J'avais très envie de parler à mon ami Roger Brulotte, l'infatigable, quasi immortel Roger Brulotte, qui écrit encore sur une base régulière dans le Journal de Montréal, en plus d'être analyste des matchs de baseball au réseau TVA. D'ailleurs, on lui parle ce soir un peu avant qu'il entre en ondes en direct pour faire le match des Blue Jays. Bien le bonsoir, mon cher Roger.
Salut Mario, fait plaisir de parler. J'espère que t'as passé une bonne période estivale.
Un très bel été. Merci beaucoup, Roger. J'espère que tu en as eu un beau, toi également. Il y a quelques raisons pour lesquelles je voulais te parler, notamment pour te remercier de l'article qui nous a donné des nouvelles de l'état de santé de Jacques Demers. Mais juste avant de te parler de Jacques, qui célébrait son anniversaire la semaine dernière, ben, tu as perdu un ami et un collègue en Yvon Penneau. Moi, je ne savais pas qu'il était malade. Et tu l'as vu, toi, cet été?
J'avais vu Ped lorsque la saison de hockey finit. on parlait de baseball, puis on se parlait au téléphone, mais jamais j'avais anticipé un décès de Yvon en fin de semaine. Je savais qu'il était malade jusqu'à quel point. Tu sais, faut pas que tu oublies, Yvon et son fils, c'est des gens discrets sur leur vie personnelle. Fait qu'ils n'en ont pas parlé trop de qu'est-ce qui se passait. Mais Eric a fait un travail incroyable avec sa conjointe de prendre soin d'Yvon pendant tout ce temps-là. Et faut jamais oublier les gens autour. Puis Eric, sa conjointe, a été formidable jusqu'à quel point il complique le prince paternel. Et surtout, du gars qui est membre du Temple de la Renommée et un historien du hockey et du sport à Montréal. C'est ça qu'il faut pas oublier. Dans le cas d'Yvon Penneau, c'était pas juste le hockey. Baseball, football. Il a fait du canot-kayak. Imagine, canot-kayak.
Imagine.
Pense à ça. Et les courses de chevaux. Alors, il a touché tous les sports imaginables. Tous les sports imaginables.
Mais le hockey, c'était vraiment sa passion. Puis, il en a fait du hockey collégial, junior. Il y a un magasin que, tel que Michel Baudry l'écrivait également. Tu sais, c'était vraiment sa première passion. Je me trompe, Roger? En tout cas, c'est...
Je pense qu'il aurait aimé ça. Il aurait aimé ça se retrouver avec une équipe de Ligue nationale, sans aucun doute. Je pense que quand il est parti, fais le faire, là. T'es journaliste, t'as un emploi stable, et tu décides d'aller dans une équipe de hockey junior. Faut le faire, là. Parce que dans ta tête, t'aimerais ça faire carrière dans la Ligue nationale. Moi, j'allais toujours, moi, je disais dans le temps, t'es-tu malade? Tu vois ce que je peux dire? Il dit, moi, je suis malade, je vais avoir du fun. Mais il a eu du plaisir. Puis il a fait du bon travail. Puis tu regardes tout ceci qu'il a fait. Moi, c'est ce que j'admire toujours d'Yvon Penneau. Il pouvait te critiquer via radio-télévision, le journal, mais sans jamais être personnel et méchant. Mais il peut te dire que tu n'as pas fait un bon travail comme joueur. Ça, faut toujours jamais oublier ça. Jamais oublier le travail honnête d'un gars comme Yvon Penneau.
Je dois te dire, par ailleurs, je parlais de Jacques Demers dans l'introduction de cet entretien. Roger, Jacques, qui vient de célébrer le 25 août dernier, la semaine dernière, là, son 79e anniversaire de naissance. Puis tu as eu l'idée de t'entretenir avec son frère Michel et de prendre des nouvelles de Jacques. Puis je dois te dire que j'étais très heureux d'avoir des nouvelles, de savoir qu'il est lucide, bien que c'est pas une situation facile non plus. Raconte-moi ce que tu as appris sur la santé de Jacques à travers cette conversation avec Michel, pour les gens qui n'ont peut-être pas lu l'article, que je vous invite à aller lire dans le Journal de Montréal.
L'affaire qu'on voulait faire, surtout après avoir terminé l'entrevue que j'ai eue hier, c'est que veut pas, Jacques est lucide. Tout le monde pense que Jacques n'est pas lucide. Jacques reconnaît son monde. Il peut avoir une conversation avec vous autres, mais c'est toi qui parles. Lui va te répondre avec un oui, un non, un sourire, mais qu'est-ce que tu lui racontes? Il comprend. Tu ne peux pas faire une longue conversation d'une heure parce qu'il devient fatigué. Tu sais, mais il suit le Canadien régulièrement. Et quand le Canadien perd, il choque, il boude. Alors, tu sais, il y a encore cette passion-là, mais c'est l'ouvrage. N'oubliez pas, il est lucide. C'est ça le point que je veux surtout transmettre aux gens.
Oui, et est-ce que toi, tu sais, c'est pas toujours évident d'appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles de quelqu'un dans la situation de Jacques. Roger, c'est sûr que vous avez eu une longue relation. Toi, tu l'as connu, Jacques, il y a bien longtemps. Est-ce que tu étais toi-même...
Il jouait dans la Ligue de hockey Labour à Montréal-Est contre Michel Bergeron, Claude Lécuyer. Il jouait contre ces gens-là. Ça, c'est avant. Puis il travaillait à Coke dans le même temps. Et là, il était entraîneur avec Châteauguay, OK? Le Junior B. T'as monsieur Dumichel, les restaurants qui étaient là. Puis c'est lui qui s'occupait du junior là-bas.
Oui.
Le Canadien junior a pris Larry Regan au lieu de lui. Il y avait Michel Bergeron et Jacques. Tout le monde oublie que Jacques Demers et Michel Bergeron étaient en lice sur l'emploi du Canadien junior. Deux fois, ils sont affrontés sans le savoir. Ils vont appeler Larry Regan, parce que Larry Regan, c'est lui qui a fait l'échange qui a permis aux Canadiens d'avoir Guy Lafleur. Puis quand il était congédié par Los Angeles, Sam Pollock l'avait engagé comme entraîneur du Canadien junior.
Jacques, va pas peur de la chaleur dans la cuisine, ça glace, hein?
La cuisine, c'était lui.
À ce point-là? Ah oui, il était bouillant.
Oh, batailleur. Lui, il reculait. Mettons qu'il y avait un gars qui était tough l'autre bord. Si le gars tough s'en prenait à lui, c'était fini. Mais si le gars s'en prenait à un autre qui n'était pas un batailleur, là, il le finissait.
Mais tu te rappelles-tu, moi, j'ai pas vu Jacques jouer, bien sûr, là. Écoute, oui. Jacques a eu 79 ans. Mais je me rappelle de ses envolées célèbres derrière le banc, qui a lancé ses lunettes, les bâtons de hockey.
Quand il participe, l'entraîneur Brophy, il n'aurait pas vu qu'il l'attrape dans le vestiaire en arrière.
Glenn Sonmore également, dans le temps, il avait dit.
Quand il est parti après eux autres, il n'aurait pas voulu qu'ils attrapent. Là. Oubliez ça, là. Ça a été la fin de leur carrière. La sienne aussi, elle a été suspendue. Là, mais
fait que c'était pas du show. Là. Il avait le sang chaud.
Oui, ça avait le sang chaud. Jacques, c'était un gars, comment je pourrais dire ça, honnête, puis il a toujours défendu ses amis, dont ses joueurs. Puis si quelqu'un s'en prenait, là, tu ne pas, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de traverser la ligne. Là. Ça ne faisait pas peur du tout.
En
du
tout cas, du tout. On le salue chaleureusement. Je salue Michel également et toute la famille, Debbie. Si jamais, par hasard, Jacques écoute la radio de temps en temps, question de suivre les nouvelles du sport, 79 ans. Et tu as eu l'occasion, toi, depuis qu'il est dans cette situation-là, de lui rendre visite, je pense, au moins une fois, si je me trompe pas, Roger.
Oui, au tout début. Au tout début, j'avais été le voir. Et ensuite, un peu plus tard, j'avais rencontré dans une soirée. Et j'avais été suspect avec lui-même. On y allait souper au Bâton Rouge. J'avais été suspect avec lui au Bâton Rouge. Et comment je pourrais dire? Il voulait pas de pitié.
OK.
Tu sais, c'est pas une soirée que tu étais là puis tu regardais en voulant dire tout triste. Non, non. Tu jasais, il te répondait. Et c'est quand moi, je me suis encore, quand je suis à côté de lui, j'ai dit, toi, t'étais tough. Il a sorti son point. Il a dit, oui, j'étais tough. Puis quand il rencontrait ses anciens joueurs, c'était pour lui incroyable.
Roger, en terminant, permets-moi une question beaucoup plus personnelle. Yvon Penneau nous a quittés à l'âge de 77 ans. On connaît l'état de santé de Jacques Demers. Je parlais avec Serge Cherchevard tout à l'heure, qui lui aussi a 77 ans. Comment composes-tu avec la réalité d'avancer en âge, de perdre des amis, mais de garder ton enthousiasme aussi dans le côté positif? Comment composes-tu avec tout ça?
Quand tu regardes cette phase-là, faut que tu gardes ta passion pour quelque chose. Que ce soit n'importe quoi. Moi, ma passion, c'est le sport, et pas juste le baseball. J'aime le sport. Fait que tous les jours, j'ai un intérêt. Et là, ce qu'on on a plus d'intérêt quand on se lève le matin, c'est là qu'on a de la misère. Tu sais, moi, c'est le sport. Quelqu'un d'autre, ça peut être l'automobile. L'autre, ça peut être les maisons. L'autre, ça peut être les immeubles. Mais ça te prend une passion. Puis aussi longtemps que tu as une passion, tu te lèves le matin avec une raison de vivre. Et non pas trouver une raison de vivre. Une différence.
Je comprends. Donc,
moi,
c'est
quand,
bon.
Moi, quand je me lève le matin, j'ai une raison de vivre. Je cherche pas pourquoi je vis. Moi, quand je me lève le matin, je veux savoir ce qui s'est passé dans le baseball. Je regarde ce qui se passe avec le Canadien. Je vais communiquer avec Hughes. Je vais le taquiner sur les échanges qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Tu sais, je vais voir Martin Saint-Louis, je vais y parler. Et je rencontre des joueurs du Canadien, je leur parle. Tu sais, Caulfield, quand je lui parle de Badger, Wisconsin, tu sais, ça l'avait surpris mes yeux. Tu dis, you're a Badger. Ah, ben là, il m'a regardé. Tu connais ça? Là, j'ai parlé de Bob Johnson, j'ai parlé des équipes de football du coin. C'est ça, j'ai une raison de vivre. Puis, mesdames et messieurs, comme je le dirais si bien, un annonceur, sans le nommer, si vous avez une passion, vous allez passer à travers. Mais cherchez pas de passion. Trouvez une raison de vivre. Puis là, c'est le fun.
Extraordinaire, Roger. Merci de ton témoignage. Merci de ton temps. Bon match des Blue Jays. Puis au plaisir de t'accueillir en studio prochainement. Puis d'avoir l'occasion de converser avec les auditeurs. On se l'est promis. Ça va arriver, c'est sûr et certain.
Ah, on va être fun.
Merci, Roger.
Hey. Dis bonjour à ta main.
Certainement. Tu peux être sûr. Merci beaucoup.
Bye bye.
Bye, Roger. Bye. C'était Roger Brulotte.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Nous accueillons mon ami Stéphane White. Bonsoir, Stéphane.
Bon retour, Mario.
Merci beaucoup, Stéphane. Très content de te retrouver. On a eu la chance de se voir un petit peu plus tôt cette semaine, mais les étés, c'est très chargé pour toi. C'est pas des vacances l'été là, avec tes écoles de hockey, tout ça. Fait que t'as pas eu bien de temps pour relaxer. Là. J'espère que t'as profité des dernières semaines un petit peu.
Oui, exactement. Non, c'est certain que le mois de juillet, pour moi, là, c'est tout le temps, là, depuis 35 ans, c'est un mois très chargé au niveau de mes écoles de hockey. Donc, cette année, deux voyages en Europe pour mes écoles de hockey, plus trois villes au Québec. Donc, gros mois de juillet, mais si je fais ça, c'est parce que j'aime ça, Mario. Et puis, c'est le fun de revenir à la base à chaque année, travailler avec des jeunes, garder le but. Et puis, ça te ramène à la base sur terre et puis... Ben, c'est toujours bien plaisant.
Ben, c'est tout à ton honneur, Stéphane. Puis, veux pas, ben, ça te permet de suivre. Je sais que tu as passé un bout de temps avec Devon Levi cet été, notamment.
Oui, la semaine passée, j'ai fait. On présente un commercial pour une compagnie d'équipement de gardien de but. Et puis, c'est moi qui est en charge un petit peu de diriger les gardiens de but qui étaient à sa glace. Et puis, un bon kid, très bon kid. J'ai hâte de voir sa première saison dans la Ligue nationale, mais c'était bien le fun de jaser avec lui. C'était un kid qui, tu vois, qui pose des questions, me demandait plein de choses. Donc, c'est quoi la qualité numéro un, c'est quoi qui est important dans la Ligue nationale, les choses en dehors d'Atlas, puis toutes sortes de choses. Donc, il m'a impressionné d'Yvan Levi.
Processus de reconstruction chez le Canadien de Montréal. Un année et demie de règne pour Kent Hughes. Grosso modo, Martin Saint-Louis un petit peu moins long, mais pas loin de là. Où est-ce que le Canadien est rendu dans sa reconstruction, Stéphane, là, en 2023-24?
Ben écoute, ça va être intéressant cette année. Et puis, je suis convaincu qu'un gars comme Kent Hughes attendait cette saison avec impatience depuis 2 ans qu'il attendait cette saison qui va commencer. Pourquoi? Parce que c'est son club. Ça lui a pris 2 ans pour écouler certains contrats, pour échanger certains contrats, des gars qui n'étaient pas dans le futur de l'organisation, dans la culture de l'organisation. Et finalement, ça lui a pris 2 ans pour faire ça. Écoute, en 2 ans, il s'est débarrassé de, on les nommera pas toutes, mais d'un Lekkonen, d'un Chiarot, d'un Toffoli, d'un Petrie, Edmondson cette saison, Jonathan Drouin qui vient de finir son contrat, Pitlick est parti, Hoffman est parti. Ça, c'est du stock. Ça, c'est sans parler de Byron, Price et Weber que leur carrière a pratiquement terminé. Donc, c'est beaucoup de changements, mais ça prenait du temps. Et puis, ce que j'ai aimé, moi, de Kent Hughes cet été, c'est pas les additions qu'il a faites, c'est les soustractions. Et ça, j'ai adoré ça. Donc, Mario, pour résumer, c'est l'ère Kent Hughes pour moi qui débute officiellement cette saison.
OK. Le ménage est complété? Pas mal?
Oui, parce que dans ce qui reste, écoute, on a encore un surplus. Là. On a un total de 26 joueurs avec un contrat de la Ligue nationale qui se présente au camp. C'est 26 joueurs qui sont en santé pour débuter la saison. Donc, on sait qu'on a droit à 23 joueurs sur l'alignement, le roster qu'on appelle du Canadien. Donc, t'as déjà 3 joueurs de trop. Et puis ça laisse pas de porte ouverte à nos jeunes qui s'en viennent. J'écoutais mon bon ami Stéphane Rebideau avant. Je peux te dire une affaire, mon Mario. Quand tu deviens dans l'organisation du Canadien, t'apprends assez vite à parler comme un politicien. Et puis,
c'est conseillé, c'est recommandé, c'est du coaché en ce sens?
Ben,
c'est de bon sens. Canadien. Tu comprends qu'il faut pas que tu fasses le front page le lendemain. Non.
Tu peux pas dire, regarde, Logan Mailloux fera pas l'équipe, ou tu peux pas dire, Logan Mailloux va faire l'équipe. Tu peux pas dire ça. Même si à l'intérieur, t'as une mot juste de bonne idée, qu'est-ce qui va se passer avec ces jeunes-là cette année. Donc, mais tu peux pas, comme moi, j'aurais pas pu dire, Caden Primo, il n'y a aucune chance de faire l'équipe. Mais non, tu veux pas enlever cet espoir-là au kid, même si on sait à l'intérieur qu'il est pas prêt. Donc, ils se doivent de dire ça. J'entends les Francis Bouillon, Steph Robida, Alex Burrows, ils disent les bonnes choses parce que tu peux pas enlever d'espoir à un jeune, puis en même temps, mais tu peux pas annoncer à tout le monde qu'est-ce que tu veux faire, même si à l'intérieur, on le sait à 95%, c'est quoi l'équipe en partant de la saison.
Ouais, exactement. On est en rentrée scolaire, rentrée des Canadiens dans quelques semaines, ça va venir vite. Fait que sans précipiter les choses et les questions, puis se demander si jusqu'à quel point l'équipe pourrait se prendre cette année, on va commencer par le camp d'entraînement. C'est quoi les éléments qui vont le plus t'intriguer, qui piquent le plus ta curiosité par rapport à la suite des choses, ou c'est-à-dire par rapport au camp, en ce sens, les grosses bagarres, on parlait de Mailloux. Moi, je te le dis, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, je veux dire, dans quel état nous revient Stafkovski après avoir manqué la deuxième moitié de saison? Puis j'ajoute Goulet dans le même élan qu'on n'a pas vu si longtemps que ça, là.
Totalement d'accord avec toi. Je t'ai écouté plus tôt dans l'émission. Et puis, moi aussi, Stafkovski, j'ai un an plus vieux, un an plus gros, un an plus fort. Je suis convaincu que sa blessure, il est revenu à 100% et même plus fort. Parce que quand tu es blessé, je peux-tu te dire que tu t'entraînes pas à peu près, donc tu prends beaucoup de force. À un an plus vieux, il a quand même une moitié de saison derrière la cravate, ce qui est beaucoup dans son cas, qui était l'année passée, 18 ans. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment il va se présenter. Je suis certain qu'il va être plus confiant. Mais ça va être un de mes points d'intérêt dans le camp d'entraînement, comment il va se présenter cette saison. Tu parles de Goulet, tellement impressionné l'année passée. L'année passée, il est arrivé sans grosse attente. Et mais cette saison, il y a une attente parce qu'il y a eu une saison incroyable avant qu'il soit blessé.
Oui.
Donc, lui ici, ça va être intéressant de voir. J'ai hâte de voir Harbert Jacquet. Si lui ici est arrivé l'année passée avec zéro attente. Et maintenant, il y a une certaine attente envers Harbert Jacquet. J'ai hâte de voir revenir cette saison. Monahan, on espère tous qu'ils vont être en santé. C'est tous des gars que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quand, et aussi Caden Primo au camp, comment il va se débrouiller. Parce que, écoute, Caden, il est rendu à 24 ans, ce qui est encore une fois pas vieux pour un gardien de but. Mais s'il y a un bon camp d'entraînement, il va être dur à passer
au
waivers, au balotage, exactement. Il va être dur à passer là. Donc, peut-être une possibilité de transaction d'un gars comme Caden Primo. Je m'attends aussi à ce qu'une équipe au camp d'entraînement, une équipe de la Ligue nationale, ait des blessés dans le filet. Et puis, de là qu'un gars comme Casey DeSmith va pouvoir changer d'adresse quand une équipe va avoir un besoin. Donc, je suis pas inquiet. Casey DeSmith, là, écoute, c'est pas un gars qui va voir Montréal cette année. Là. Marmont Tambeau et Allen sont de loin supérieurs à Casey DeSmith, tout en étant pratiquement plus jeune. Donc, ça, c'est tout. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Mais le Canadien a un surplus de joueurs. 14 joueurs devant signés, 9 défenseurs.
Ça annonce d'autres décisions, Stéphane, nécessairement. C'est clair. Là.
Ah, c'est certain. C'est certain. C'est certain. Et puis, mais écoute, mes trios sont déjà faits. Hein. Donc,
ah oui?
Oh, ben oui. Les trios sont déjà faits. Et encore une fois, comme je disais il y a exactement un an, si cette équipe-là reste en santé, je dis pas qu'ils font les séries, mais je dis qu'ils vont être dans le mix pour faire les séries jusqu'à la fin. Si cette équipe-là reste en santé, il y a beaucoup de talent. Oui, ils sont jeunes, mais le talent n'a pas d'âge. Et puis, donc, moi, je suis excité. Je suis le personnel d'entraîneur. Je suis excité.
Ben moi aussi, c'est toujours excitant parce que l'espoir, tu sais, tout le monde est égal au classement là quand on n'a pas un match de jouer, mais tu sais, et sans discuter ou comment dirais-je challenger ton excitation parce qu'on l'a tous à l'aube d'une nouvelle saison, mais ça voudrait-tu dire, tu sais, si le Canadien ferait les séries aussi vite que cette année ou lutte fort pour les séries, ça veut-tu dire qu'ils ont meilleur noyau de jeunes que des Sénateurs ou d'autres équipes qui sont dans des situations semblables?
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les Sénateurs ont le droit d'être aussi excités qu'on peut l'être à Montréal. Et puis
les Red Wings, c'est les Devils qui ont fait les séries. Tu sais, dans l'Atlantique, il y a du trafic, mon Steph,
ouais.
Là.
Il y a du trafic. Mais écoute, une équipe comme Boston, je pense que ça va être très difficile de se remettre de toutes les pertes qu'ils ont eues cet été. Et ils en ont eu 6 joueurs importants qui sont partis. Donc, ça, c'est une équipe qui peut juste baisser. Après ça, c'est comme dans tous les mots justes de saison, Mario. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, des blessures à des joueurs clés. Quand les blessures commencent à te tomber dessus et que là, tu as 3, 4, 5 défaites en ligne, et ton gardien de but ne fait pas les arrêts, perd confiance. Tu as des équipes qui peuvent descendre aussi vite que tu as des équipes comme le Canadien qui peuvent monter aussi vite. Non, ben, ça pour dire que là, écoute, je parle comme un coach. Comme un coach qui a été 18 ans dans la Ligue nationale, qui, à toutes les fois, en fin de août, était excité, puis qu'on disait tout le temps, tous les espoirs sont perdus.
Ben, il faut que tu commences avec cette attitude-là. Tu sais, t'as pas le choix. Et il y a une chose, cependant, sans dire que les attentes vont être très, très grandes, elles seront un peu plus grandes que l'année passée. Puis, tu sais, les revirements qui vont coûter des matchs, ils vont être plus soulignés que dans le passé. T'es d'accord avec moi là-dessus?
Oh, Mario! Tellement d'accord. C'est quelque chose que honnêtement, que j'ai pas aimé dans les 2 dernières saisons. On avait le droit à faire des erreurs. Oui, ça, j'ai pas de trouble. Mais on avait le droit de les répéter match après match. Ça me fatiguait. À un moment donné, tu peux plus. À un moment donné, il faut qu'il y ait une balle. Oui, tu as le droit de faire des erreurs, mais pas à tous les matchs. Puis répète pas les mêmes erreurs à tous les 2-3 matchs. Parce que là, à un moment donné, ça devient à un moment donné où ce que tu prends des mauvais plis et ça devient entre guillemets un petit peu country club là, quand tout le monde doit faire des erreurs puis les répéter. Ça, ils ont des attentes plus élevées cette année. Kent Hughes l'a dit, Martin Saint-Louis l'a dit l'année passée et ça aussi, j'aime ça.
Peut-être en finissant, Stéphane, là, c'est peut-être la meilleure décision de l'été, la pire décision de l'été selon toi. Tu as juste un survol puis on aura l'occasion de revenir en masse.
Bon, au niveau du Canadien, la meilleure pour moi, écoute, c'est le départ d'Hoffman, Pitlick, Edmondson. Edmondson, l'année passée, il est affligé par des blessures depuis 2 ans, a beaucoup ralenti dans une ligue où c'est très rapide et surtout dans un système où le Canadien joue man to man, qu'on dit en anglais.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose que Edmondson ne pouvait pas jouer là-dedans. Donc ça, c'est un bon départ pour Montréal, sauf un salaire là. Petlik, il n'y a plus de place pour lui avec l'émergence d'Harvey Pinard. Et Hoffman, écoute, on a fait 3 ans qu'on parle de ce gars-là. C'est pas la culture, le genre de joueur que tu veux bâtir ta culture. Donc, moi, là, c'est 3 gros départs qui je suis convaincu, les entraîneurs sont très contents.
Absolument. Autre chose à ajouter là-dessus, Stéphane, avant qu'on se salue, mon cher.
Ben, alors, non, je pense que c'est parti. On est en forme. Je t'écoute, t'as l'air. C'est comme le Bessic, ça. T'as pas l'air à l'avoir perdu pendant l'été. Et puis, on va avoir une belle saison, ça va être le fun.
Très bien, Stéphane. Très content de te retrouver en onde. Merci beaucoup pour les bons mots. Bonne fin de soirée. Salut, Steph.
Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Il y a plein de bonnes raisons de parler du CF Montréal, mais juste avant, Mauro Biello, qui est nommé entraîneur-chef par intérim de l'équipe nationale de soccer de l'équipe canadienne, le résultat de la nomination de John Erdman, qui est nouvel entraîneur du Toronto FC. Je retrouve avec grand plaisir mon ami et collègue Jérémy Filosa. Bonsoir Jérémy.
Et salut Mario.
Jérémy, dis-moi, est-ce que c'est un cadeau empoisonné avec tout ce qui va pas bien au sein du soccer canadien? Je parle au niveau administratif, au niveau des budgets. Puis en même temps, ben, j'espère qu'il va l'avoir à temps plein, mais tu sais, je me demande, tu sais, Erdman n'a pas quitté pour rien non plus, là.
Ouais, non, c'est sûr que John Erdman avait énormément de frustration par rapport à tout ce qui se passe du côté de Soccer Canada. Soit dit en passant, dans quelques semaines, on aura une fenêtre internationale au début du mois de septembre et le Canada, un des seuls pays au monde, Mario, qui a aucun match de prévu. Il y a même pas un camp d'entraînement. Là, Samuel Piette, la semaine passée, disait que ça n'avait aucun bon sens. Alors, c'est sûr que on n'avait probablement pas le budget pour embaucher un autre entraîneur immédiatement. Mauro Biello était déjà l'entraîneur assistant de John Erdman. Moi, je pourrais pas être plus heureux de voir qu'on lui donne sa chance. C'est incroyable, Mario. Mauro Biello va avoir le titre, le poste le plus prestigieux, le plus important dans le soccer canadien.
Oui.
Alors, écoute, j'espère que tout va bien se passer. Le Canada, d'ailleurs, va jouer contre le Japon au mois d'octobre prochain. Ça, c'est déjà prévu. Mais c'est sûr que c'est une situation extrêmement particulière parce que, tu sais, Erdman était sous contrat, là, mais peut-être que lui aussi s'est dit, écoute, si véritablement la fédération fait banqueroute comme on a menacé cet été, est-ce que je vais perdre mon emploi? Donc, il a sauté sur l'opportunité qui lui a été offerte à Toronto.
Ben, je comprends. Donc, il a profité de l'opportunité et je peux pas l'en blâmer là, d'aller dans les rangs professionnels masculins, John Erdman. Et on a tenté d'établir la communication pour parler avec Mauro Biello. Peut-être que ça pourra se faire dans les prochains jours. Mais juste avant, parce que je veux te parler du CF, mais il y a du monde qui doivent perdre leur job à Canada Soccer pour que ça soit dirigé comme ça. C'est un fiasco. Je regarde aussi, bon, c'est sûr que ça a été une grande déception, l'équipe féminine cette année de la Coupe du monde féminine. Eux autres aussi ont dû se battre jusqu'avant le tournoi pour avoir des moyens. Je me dis, c'est peut-être pas juste à ce niveau-là que ça s'est perdu, là. Mais il reste que, tu sais, quand c'est mené comme ça, il y a lieu de se poser des questions. Comment ça se fait que, alors que le soccer a quelques... On n'est pas bien loin de la présentation de la Coupe du monde dans les 3 pays là qui est participant, puis comment ça se fait que le soccer canadien est dans cet état-là? C'est qui le clown qui dirige ça?
Ben, écoute, c'est sûr que l'entente avec Sports Media Pro, qui a fait en sorte qu'on se retrouve là, sur la plateforme One Soccer sur Internet, ça n'a pas été la meilleure des ententes. Là. Puis on a signé pour 10 ans cette entente-là. Et il y a plusieurs problématiques autour de
cette
entente.
Tu te souviens-tu du montant?
Je crois que c'était 100 millions à l'époque qu'on avait donné du côté de Media Pro pour aller chercher cette entente-là. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, là, la Fédération canadienne payait les réseaux pour présenter les matchs. Et là, tu avais une plateforme qui est arrivée et qui a dit « Nous, on va vous donner 100 millions sur 10 ans ». Mais l'entente, elle n'a pas été bien ficelée. Et là, tu as des commanditaires qui disent « Moi, je veux bien là, embarquer dans ton programme puis t'aider financièrement, mais où est-ce que je vais chercher ma visibilité à moi? » Comment, tu sais, combien de personnes sont abonnées à cette plateforme? Qui va véritablement me voir? Donc, ça empêche de grosses ententes de commandites, malgré le fait que l'équipe nationale de soccer n'a jamais été aussi populaire. Mais t'as raison de le mentionner. On est rentré dans la Gold Cup, Mario. Il y a bien des joueurs qui se sont désistés probablement à cause de l'atmosphère morose. Les filles aussi sont allées à la Coupe du Monde sans entente de travail. L'argent qu'on a obtenu de la Coupe du Monde, et où cet argent-là? Les joueurs doivent obtenir une portion de cet argent. Les équipes qui ont envoyé des joueurs à la Coupe du Monde, comme le CF Montréal, attendent encore leur argent. Non, c'est le fouillis total, là, Mario, présentement. Et dire que le Canada a été invité à participer à un tournoi qui pourrait les qualifier pour la prestigieuse Copa América l'été prochain. Et là, Jason DeVos dit, si on trouve pas de solution, on va déclarer forfait. Je veux dire, c'est une catastrophe de A à Z. Là.
Le CF, victoire en fin de semaine, troisième victoire de suite. Bon, il y a eu le calendrier international qui a fait que, à un moment donné, il y a eu moins de matchs. Une victoire où la défensive s'est mise en évidence. Six Québécois en uniforme. Ouais. Le CF qui est en haut de la barre, qui sépare les équipes éliminées, il reste beaucoup de matchs à jouer. Mais encore une fois, alors que... Il y a beaucoup d'éléments négatifs qui tournent autour de l'équipe, mais somme toute, ouais, avec ce qu'ils ont, ils livrent la marchandise, Philo.
Écoute, c'est une saison vraiment très particulière, hein, parce que tu regardes sur la route, l'équipe n'est pas capable de gagner. Ils ont deux victoires seulement cette année. Et à domicile, une équipe dominante. Ils n'ont donné que 5 buts cette saison au Stade Saputo. On arrive à la fin du mois d'août, là. 5 buts durant toute la saison à domicile. C'est tout ce qu'ils ont accordé. C'est-à-dire que Jonathan Sirois a déjà accumulé 10 blanchissages. Il écale le record de Evan Bush et il reste encore plusieurs matchs à disputer. Il pourrait fracasser ce record. Donc, c'est tellement particulier de voir à quel point sur la route, c'est compliqué et à domicile, on a du succès. C'est vrai que c'est la réalité de plusieurs équipes de la MLS, il faut le mentionner, cette saison. Mais tu sais, quand on a décidé de laisser partir Rudy Camacho, on s'est dit « Ouais, on est dans une course aux séries, on laisse partir le meilleur défenseur de l'équipe, un pilier dans cette équipe-là qui est là depuis longtemps. » Et d'ailleurs, cette année, à chaque fois que Rudy était absent, ça a été la catastrophe. Ils ont encaissé 3, 4 et 5 buts. Alors, on s'est dit « On s'en va où avec tout ça? » Et là, après deux matchs sans Rudy, ça se tient quand même. Ça, c'est la très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, tu viens de le mentionner, 6 Québécois dans l'alignement sur 11 joueurs. Mario, je me souviens de Joey Saputo qui nous avait dit en point de presse, il y a de ça 4 ou 5 ans, il avait dit « Mon objectif, c'est d'avoir le maximum de Québécois dans l'alignement. » Il avait dit « Pas dans les estrades, pas sur le banc, dans l'alignement partant. » Et moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ouais, c'est bien beau, mais est-ce qu'il va y arriver et tout ça? » Et là, de voir qu'on habille 6 des 11 joueurs, c'est des gars d'ici, puis on arrive à tenir tête à des bonnes équipes de la MLS. C'est absolument incroyable.
Ben bravo, bravo, parce que donc c'est appuyé par une vision. Et sais-tu quoi? Est-ce que le CF Montréal a le meilleur rendement sur le dollar, sur chaque dollar investi de la MLS?
Ah, écoute, je veux dire, c'est sans l'ombre d'un doute, oui. Parce qu'on regarde la masse salariale du CF Montréal cette année, 9 millions de dollars, c'est l'équipe qui coûte le moins. C'est aussi l'organisation qui dépense le moins en termes de frais de transfert. Joey Saputo ne sort pratiquement plus un sou de sa poche pour bâtir son équipe. Il n'utilise en fait que l'argent d'allocation ou l'argent de partage des revenus, appelez ça comme vous voulez, mais pour payer ses joueurs, pour garnir son équipe. Aussi, cette semaine, on a vu qu'il y a un tableau qui est sorti en termes de valeur des joueurs à l'international. C'est aussi le plus petit total de valeur de joueurs dans toute la MLS. Donc, assurément, tu te retrouves au milieu du peloton avec un budget, pratiquement ridicule. Et t'arrives quand même à compétitionner. On presse le citron et on en récolte le maximum présentement.
Tu étais à l'entraînement, puis il y a un autre sujet que je vais aborder juste avant qu'on se quitte tout à l'heure, mais oui. Tu étais à l'entraînement ce matin. Le prochain match est contre le New York City FC mercredi. Qu'est-ce que tu anticipes? Puis que ça sentait. On s'entraîne dans une belle ambiance, j'ose croire, là, quand on gagne des matchs de cette façon-là.
Ben, c'est certain que présentement, tout le monde a le sourire aux lèvres. On vient de coller deux victoires au retour de la pause. Donc, on continue de grimper au classement. Là, on a eu quand même quelques nouvelles là ce matin. Premièrement, Aaron Herrera s'est blessé à une cheville. Il sera perdu pour plusieurs semaines, malheureusement. Ariel Lasseter sera de retour au jeu ce mercredi. Dans le cas de Romel Kyoto, il s'entraîne, mais en solitaire. On n'approche pas là, le retour au jeu pour Romel Kyoto, le joueur le plus utile à l'équipe la saison dernière, on s'en souvient. Donc ça, c'est on a hâte que ce joueur-là retrouve du collier, ça c'est certain. Ça ressemblait un petit peu à ça aujourd'hui. Et c'est sûr que le dossier de Victor Wanyama, Mario, fait beaucoup jaser. C'est ton seul joueur désigné, c'est le seul joueur qui gagne plus d'un million dans l'équipe. 1,5 cette année, 1,8 garanti la saison prochaine. Et Hernan Lozada ne le voit plus dans ses plans.
Puis tu gagnes pareil. Wanyama. Fait que c'est comme une décision qui est validée. Là, sans, je veux pas cracher sur Wanyama parce que c'est un joueur important là, les dernières années. Puis je dis pas qu'il ne l'est plus, mais en tout cas, les résultats disent que peut-être que Lozada prend pas des mauvaises décisions quant à son utilisation rapidement là-dessus.
Ben écoute, Lozada veut une équipe qui joue en transition rapidement. Wanyama, ce n'est plus ce joueur-là. Il n'est pas capable de jouer rapidement. Donc, Lozada, au moment où on se parle, l'a écarté un peu, ne joue pratiquement plus, surtout que depuis que Samuel Piette est revenu au jeu, c'est lui qui a pris ce poste-là. Mais Wanyama a donné de fiers services comme capitaine à l'équipe dans la première moitié de la saison. Mais là, ça va devenir un peu une patate chaude, Mario, parce que c'est supposé être un de tes leaders. Et là, il joue pratiquement plus. Alors, c'est une décision quand même osée de la part d'Hernan Lozada. Mais dans le style de jeu qu'il joue, c'est une décision que je peux comprendre aussi.
On va y revenir. Je sais que ça a été un des gros sujets de l'été. Fait que c'est pas comme si personne n'avait parlé, mais juste en allant la pause comme ça, on le savait que Messi, ça allait être gros en MLS avec Miami. Mais c'est gros pas rien qu'un peu, là. Puis c'est comme en termes de résultats aussi, c'est assez spectaculaire. Est-ce que c'est vraiment la nouvelle de l'été dans le sport nord-américain? Je sais pas si tu vois quelque chose de plus gros que ça, mais c'est big.
C'est sûr. Écoute, moi, je m'attendais à un ouragan. Finalement, on a un Big Bang. T'sais, ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, c'est 9 matchs consécutivement, 9 victoires. Messi est décisif dans chacun des matchs, que ce soit par un but. Il y a 11 buts et quoi, 5 ou 6 passes dans
cette
période-là.
Penses-tu que le monde des ligues où il jouait, regarde ça, on va en dire, on sait bien, c'est en MLS. Penses-tu que le monde dise, c'est parce que le calibre est pas assez fort?
Oui, sûrement. Sûrement que oui. Mais je pense que Messi est arrivé ici en voulant prouver à tout le monde que le joueur qui, supposément, à Paris, on disait que c'était un joueur fini, que c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a une motivation hors de l'ordinaire. Je pense qu'il a amené une coupe de ses chums avec lui, donc il trouve du plaisir. Tata Martino, qui est bien connu comme entraîneur dans le passé, est là pour diriger l'équipe. Donc, je pense qu'il est juste de bonne humeur. Il est dans un bon état d'esprit. Ils ont gagné la League's Cup, vont peut-être gagner la US Open Cup dans quelques semaines. Et qui sait, peut-être qu'ils vont se faufiler en séries éliminatoires de la MLS. Et c'est pas impossible, Mario, c'est pas impossible que si jamais il termine, par exemple, au 9e rang, ben le match suicide pourrait être contre Montréal au Stade Saputo. On verra. On se croise les doigts. C'est pas impossible que ça arrive.
Philo, content de te retrouver. Merci beaucoup.
Ben, et ça je fait te plaisir. Dis à bientôt. N'importe quand.
Bye bye.
Salut. Les amateurs de sport.